Vous écoutez RTL. RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchet.
19h19 sur RTL, lors de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la chef adjointe du service politique de Match. Bonsoir Virginie Leguet.
Bonsoir.
Avec le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonsoir Yves.
Bonsoir Marco. Bonsoir à tous.
Avec l'ancien ministre Yves Jégo. Bonsoir Yves.
Bonsoir.
Et notre chroniqueur éco ici RTL depuis toujours, Christian Menanteau. Bonsoir.
Bonsoir Marc-Olivier.
Fin de partie pour Julian Assange. Les policiers britanniques sont donc venus arrêter le fondateur de Wikileaks à l'ambassade d'Équateur à Londres. Puis il a été reconnu coupable d'avoir violé les conditions de sa liberté provisoire. Les défenseurs de Julian Assange évoquent un jour noir pour la liberté. Ils craignent une extradition pour les États-Unis où il est inculpé de piratage informatique. Jean-Luc Mélenchon plaide pour que la France lui offre l'asile politique. La Suédoise qui accuse Assange de viol va aussi demander la réouverture de l'enquête. Alors Assange, héros ou salaud, doit-on l'accueillir ici en France sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Mi-Assange, mi-démon, hein, figure complexe que celle du fondateur de Wikileaks. Au moins, on oublie la peine de mort. Soupir Corentin, il risque 5 ans de prison maxi. Ce qui surprend d'ailleurs les spécialistes comme Olivier Tesquet qui rappelle Aaron Swartz, autre activiste, encourait lui 35 ans. Quand t'as passé 7 ans enfermé dans une ambassade pour éviter 5 ans de prison, ricane Nimp. Non, non, mais attendez, d'autres charges peuvent être ajoutées plus tard aux États-Unis, s'inquiète Mathieu. Et la représentante de Wikileaks, ça me surprendrait pas, parce que 5 ans pour un grand jury qui mouline depuis plus de 8 ans pour faire un exemple, confirme Olivier. Ce qui émeut les internautes comme Ben, c'est que les alliés des Américains livrent celui qui a, dit-il, appris au monde entier les méthodes antidémocratiques des services de renseignement. La France doit lui accorder l'asile. Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, tweet dans ce sens. Porte-lui remarque quand même qu'Assange est passé de lanceur d'alerte, donc supporter de la liberté de l'information, à propagandiste, militant, ce qui n'est pas la même chose du tout. Non, non, ce que ça soulève, c'est l'impunité du gouvernement US, répond Pierre, non seulement face au dévoilement de ses crimes de guerre, mais comment il va en répondre ? Cette méthode est un rouleau compresseur. Étalienne de dire, on ne doit jamais transiger sur le droit d'informer, y compris le fait de ne pas blairer celui qui exerce ce droit comme Assange, parce que rien n'est plus facile que de nous faire détester ceux qui nous fournissent ces infos.
Yves Jégo, en deuil. Yves Jégo, pardon. Yves Tréhard, mais Yves Jégo est de l'autre côté.
Je n'ai jamais été ministre.
Pas encore.
Mais ça va venir.
Mais en fait, c'est parce qu'il faut que je parle d'abord au ministre, enfin ex-ministre. Yves Jégo.
Non, mais Yves Tréhard, peut-être plus de facilité à devenir ministre que moi à rentrer à la rédaction du Figaro.
Je ne sais pas.
Toujours est-il, jour de deuil.
Non, pas du tout, pas jour de deuil. D'abord, deux choses. Il y a le personnage Assange, qui est un drôle de citoyen, quand même, il faut le dire, parce que ce que Benoît n'a pas souligné, et ce que les internautes ne nous ont pas dit, c'est qu'il a quand même été accusé de viol, même s'il y a eu un classement sans suite en Suède.
La deuxième chose... Il ne l'a pas dit parce que je l'avais dit avant, dans mon lancement.
Pardon, excusez-moi. La deuxième chose, quand même, c'est que il a, d'une certaine façon, s'est rendu coupable de vol de documents. Quoi qu'on dise, il a volé des documents.
Même, même si la véracité de tes documents n'a jamais été mise en cause.
Exactement, mais il les a quand même volés.
Bien sûr.
Et de ce point de vue...
Et dans quel but aussi, parce qu'on l'accuse d'être un espion.
Oui, alors moi, les lanceurs d'alerte, si vous voulez, très peu pour moi, je déteste ce genre de sycophantes pièce.
Pardon, mais il y a des lanceurs d'alerte.
Oui, mais enfin, en l'occurrence...
Le docteur Frachon sur le Mediator,
en l'occurrence, ce monsieur est peut-être payé par des fonds particulier pour faire ça. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que pourquoi il est rattrapé aujourd'hui, enfin dans cette affaire, parce qu'il y a eu un changement politique en Équateur, le pays où il est accusé d'avoir pourquoi ? Parce qu'il avait donné, il avait eu la chance, il n'est pas accusé, pardon, Équateur,
il était réfugié
à l'ambassade, des États-Unis, à l'ambassade d'Équateur. En Grande-Bretagne, et Assange, et bien, il y a eu un changement de président en Équateur.
Absolument.
Avec un président de gauche qui s'est fait battre, et donc le nouveau président, sur lequel il a pu révéler quelques affaires, justement, par l'intermédiaire de Wikileaks, eh bien, ne trouve pas ça à son goût. Donc, voilà. Et derrière ça, ce qui est sûr, c'est que le président équatorien est vraisemblablement soutenu par les Américains, puisque les Américains, eh bien, sont aussi victimes, d'une certaine façon, des révélations d'Assange.
Mais donc, ça place.
Donc, il y a deux côtés. Il y a la dimension de l'homme qui me paraît quand même pas loin d'être un délinquant, je le dis comme ça. Et de l'autre côté, un jeu géopolitique qui fait que son statut est en train de changer.
Sa place est en prison, Yves Jégo ?
Moi, je suis pas juge. Je pense que c'est une mine d'or, cette affaire. C'est une mine d'or pour Hollywood. Je pense qu'il y a des scénaristes qui sont en train de prendre tout ça. Et c'est déjà prêt. Parce que c'est quand même une affaire incroyable. On s'y perd même de savoir. Moi, comment on peut.
Déjà, mais le scénariste, vous seriez, vous tiendrez. Si vous étiez scénariste, vous le mettriez dans la catégorie héros ou salaud ?
Ben, j'en sais rien.
Ah bon ?
Honnêtement, c'est ça l'intérêt du film.
Quand vous étiez ministre, vous vous mouillez un peu plus quand même.
Non, je tenais le discours officiel, mais là, j'ai plus de discours officiel. Non, c'est d'abord, il est dans un pays de droit, il est face à la justice, que ce soit la Suède, les États-Unis ou la Grande-Bretagne, qui n'est pas mise en cause et qui n'est pas réputée pour avoir des atteintes aux droits de l'homme. Donc tout ça devrait laisser un petit peu serein. Comment il a pu rester 7 ans dans l'ambassade sans en sortir ? Peut-être qu'il était content de sortir, d'ailleurs, il fait beau. Ouais,
quand
il
a on voit pu respirer à l'extérieur. Comment il est rentré, comment il est sorti physiquement
Les images sont terribles, parce
sont
qu'il
terribles,
le sort. Il le sort, effectivement, très, très brutalement.
Mais sur le fond, mouillez-vous un peu. Le fait d'avoir lanceur d'alerte, comme on dit.
Il est accusé par les États-Unis de piratage informatique, ce qui ne me semble pas être le truc le plus grave du monde non plus.
Voilà, c'est diffusion d'informations.
Voilà, piratage informatique, c'est même pas espionnage. Je ne sais même pas, c'est piratage informatique. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un héros, je ne suis pas sûr que ce qu'il ait fait soit gravissime. Je pense qu'il faut rester zen et que la justice ne lui fera pas trop de mal, à mon sens.
Bah, on regarde l'ensemble...
Il reste 5 ans aux États-Unis quand même.
Oui. Ça va se plaider, mais il a plusieurs alliés, ce qu'on oublie dans cette affaire. D'abord parce que Wikileaks a été un instrument, mais très très puissant dans la dernière campagne présidentielle. C'est quand même ce site, Wikileaks, même si Assange était dans une ambassade équatorienne à Londres, qui a piraté et révélé l'ensemble des échanges de mails de Hillary Clinton, candidate à... Et c'était à cette époque-là un héros pour M. Trump. Alors, j'ai fait juste une petite compta pour vous, elle est très drôle. Donald Trump a cité positivement, il disait « I love Wikileaks » 141 fois Wikileaks dans 56 meetings dans le dernier mois de sa campagne électorale.
Trump a viré sa cutie.
Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, le gars qui était en train de laisser pousser sa barbe à Londres et de prendre du poids était l'ennemi juré de Donald Trump. Donc, il s'avère que la justice américaine, Trump ou pas Trump, c'est un rouleau compresseur, elle a continué à fonctionner. Et le président des États-Unis, il n'arrête pas un juge américain qui a lancé...
Ce qu'il faut dire, c'est qu'il était résident à l'ambassade d'Équateur à Londres, sous statut du droit d'asile. Il n'a aucune immunité. Donc c'est le gouvernement et le président équatorien qui a changé. Et donc ils ont décidé de le foutre dehors.
Et les Britanniques qui ont autorisé, ça c'est le deuxième point intéressant de cette affaire, qui ont autorisé quand même les services de renseignement britanniques d'aller le chercher. Et on se demande ce qu'ils ont récupéré en allant le chercher. Parce qu'on l'a vu, les caméras se sont arrêtées quand il sort avec les bracelets et qu'il va dans la camionnette. Mais ce garçon, il a des ordinateurs, il a des disques durs, il a des tas de choses. Je présume que ça va faire le miel de beaucoup de monde de savoir ce que Assange a rassemblé pendant toutes ces années à Londres.
Drôle de garçon, drôle de bonhomme dont on a cessé de dénoncer le narcissisme, la totale indifférence aux autres et dont on a raconté que lorsqu'il est arrivé au tribunal de Westminster, il lisait un livre sur la sécurité d'État national en levant la main. C'est vraiment un provocateur. Moi, je suis assez d'accord avec ceux qui disent que 7 ans dans 10 mètres carrés, au lieu de faire 5 ans de prison, il en aurait terminé avec tout ça s'il avait été droit au but. Là, il a l'air juste de vivre lui-même son propre roman, sa propre histoire et de s'enfermer dans une forme de délire.
Hollywood, je vous dis,
après,
Hollywood.
Après qu'il fasse l'objet de règlements politiques, c'est une évidence. C'est lui-même qui s'est mis dans cette situation-là où finalement il est l'otage de ceux qui acceptent puis n'acceptent plus de le recevoir. Bon, et
c'est
de
pas
donner
un chevalier blanc, quoi. Je veux dire, parce qu'on essaye.
Attends, je termine juste. Il est quand même.
Elle me prend la main. Hein,
oui,
ça se voit sur rtl.fr, on vous voit en vidéo.
En tout tout bien, tout honneur. Il est quand même accusé de deux affaires en Suède, l'une d'agression sexuelle et l'autre de viol. Alors, l'une a été classée pour prescription, je crois, et l'autre sans suite. Mais ça ne dit rien du fond de l'affaire.
C'est sûr.
Je ne sais pas si tout ça en fait un héros.
On en a...
C'est fini, j'ai fini.
On en a fait. Merci Virginie.
Monsieur Yves peut parler.
Merci Virginie. On en a fait un héros parce que, enfin, il a été transformé en héros par certains médias parce qu'effectivement, il a révélé des choses qui étaient savoureuses et qui pouvaient gêner
des secrets, important,
des secrets militaires.
En tout cas, Trump n'en sait rien, il vient de le dire, c'est Philippe Corbet qui me le dit, qui m'envoie un petit SMS à la Maison Blanche. I know nothing about WikiLeaks. Il n'en sait rien du tout.
Ce qui veut dire que ce personnage a quand même une, je dirais, une psychologie qui me paraît quand même assez peu comparable à celle d'un chevalier blanc.
Il y a quand même
maintenant,
dernier suspense maintenant, nous dit Nicolas, c'est qu'il avait prévenu Assange que toute extradition aux États-Unis ferait publier un fichier assurance de WikiLeaks, c'est-à-dire un dossier crypté disséminé partout sur Internet, dont seul le groupement WikiLeaks a la clé. On saura du coup dans les jours qui viennent si c'était du bluff ou pas, si jamais il est extradé.
Le suspense continue.
Exactement.
Allez, on reparle d'Aéroport de Paris dans un instant.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Faugier.
Et avec Virginie Leguet, Christian Menanteau, Yves Tréhard, Yves Jégot. La loi PACTE qui privatise notamment donc l'aéroport de Paris, définitivement adoptée par le Parlement aujourd'hui. D'ailleurs, votée par Jean-Luc Mélenchon, mais par erreur, il a appuyé sur le bouton en glissant.
Oui,
apparemment.
C'était après le repas.
Mais les parlementaires opposés à cette vente ne désarment pas. Allez, les parlementaires opposés à cette vente ne désarment pas. Ils espèrent encore faire aboutir leur référendum d'initiative partagée. On en a débattu dans Refait le Monde. Pour le ministre de l'économie Bruno Le Maire, tous ceux qui se réunissent dans un attelage de circonstances pour proposer un référendum d'initiative partagée font le jeu des populismes et affaiblissent la démocratie représentative. Alors, est-ce que vous critiquez une manœuvre populiste ou pas, la déclaration de Le Maire, on en débat sur les réseaux sociaux, Benoît.
Populisme non masculin, qui ne va pas dans le sens de ce que désire Macron, grince d'orgie. Les internautes, vous en doutez, ils réclament des référendums et ils attaquent Le Maire, qui a beau être furieux, faut pas qu'il oublie que ce référendum est inscrit dans la Constitution, il l'a même voté. Il renie le processus démocratique, honteux pour un ministre. Pagu défend les parlementaires qui font leur travail, justement, et rave de ricaner. L'avantage, c'est qu'en les dénigrant, Le Maire va nous aider à trouver les 4,5 millions de signatures. Merci pour la promotion de ce référendum, monsieur le ministre. Et Sylvie de Lâcher, si dès qu'on s'oppose à leur politique, on est populiste, alors ok, je suis populiste à fond. Patricia trouve que c'est avoir bien peu de foi en la République de penser que le peuple qui s'exprime, c'est un échec, alors qu'on nous a vendu les heures de monologue macronien comme une avancée spectaculaire sur les voies démocratiques. Mais enfin, t'en perds tout de même, Jean-Luc, c'est pas la voix du peuple. Pour l'instant, c'est une initiative de quelques parlementaires qui n'ont aucun impact et qui cherchent à survivre. Ce qui est populiste, regrette Aurélien, c'est de nous présenter comme référendum un truc qui débouchera jamais. C'est fait pour que ça passe pas. Edoui Plenel cite Paul Alliez, dénonçant lui aussi une escroquerie démocratique à l'aune de l'aspiration des citoyens à plus de participation directe. Là où il y a un risque de populisme, concède Dominique Reynier, c'est dans l'extension du recours à ces référendums. Ça sape la légitimité des assemblées, ça précipite l'avènement de l'irresponsabilité politique. C'est la grande leçon du Brexit, conclut Thierry. La démocratie directe, ça dilue la responsabilité dans des millions de votants. Bref, personne n'est responsable en cas d'erreur. Résultat, le chaos politique comme celui que traverse la Grande-Bretagne.
Yves Jégot, cette fois, je dépopulisme donc cet attelage de circonstances pour Bruno Le Maire.
C'est pas le référendum qui est populiste, et effectivement, moi j'ai voté cette réforme de la Constitution portée par Nicolas Sarkozy. Si elle s'applique, c'est plutôt pas mal qu'une disposition de ce type-là puisse un jour s'appliquer. Moi, ce que je trouve de populiste, c'est que ceux qui hier plaidaient pour les privatisations, y compris des aéroports, aujourd'hui, parce qu'ils sont dans l'opposition, trouvent que c'est la pire des choses.
Là, vous parlez de mes anciens amis des Républicains.
Mais bien sûr, je parle de mes anciens amis, et je suis. Encore que la gauche soit contre les privatisations, il y a un fond culturel, idéologique.
Que la gauche elle-même a fait beaucoup de privatisations.
Même si elle l'a fait, mais on pourrait dire que c'est son fonds de commerce. Mais alors, les députés LR et UDI qui ont signé, alors que c'est. Alors là, je suis abasourdi. C'est ça le populisme. C'est dire le contraire de ce que vous êtes, le contraire de ce que vous pensez, pour faire un coup dans l'opposition. Ça, c'est populiste.
Ouais.
Oui, d'autant que ce référendum d'initiative partagée, il est loin d'être encore abouti. Pour l'instant, il y a une étape de franchie qui est celle du nombre minimum de parlementaires. c'est vrai que c'est la première fois que ce RIP est saisi et démarre. Mais il reste l'examen par le Conseil constitutionnel et il reste une signature de 4,7 millions d'électeurs. Donc on est très loin du compte. Donc on fait croire à l'opinion publique, ça y est, on y va, mais on n'y est pas du tout et on est très loin du compte. Et quand on parle d'initiative de toutes les oppositions, ce n'est pas toutes les oppositions, ce sont les oppositions, sauf le Rassemblement national et sauf Nicolas Dupont-Aignan, qui ont été priés de ne pas se joindre à eux. Pour prétexte.
Oui, c'est pas l'envie qui leur en manquait.
Oui, ils étaient prêts.
Ils ont juste pas été invités autour de la table.
On leur a dit qu'ils ne partageaient pas
Pour être très clair, il y avait déjà assez de signatures.
Ça partait de la gauche qui s'est dit on a assez de signatures, on va se.
Bah évidemment, on va pas en plus se coller Dupont-Aignan et le Front National.
Mais moi, je ne défends pas le Front National ni Nicolas Dupont-Aignan. Mais soit c'est une union de tous ceux qui veulent vraiment marcher ensemble, soit c'est une manœuvre politique. Et là, ça ressemble à une manœuvre politique parce qu'on choisit ceux avec qui on le fait, on écarte ceux avec qui on le fait.
Non, mais il aurait été plus logique que le Rassemblement national puis l'équipe de les petits là de Dupont-Aignan soit en réalité tête de liste de ce projet contre la privatisation.
Et ça ne fait qu'ajouter à la confusion des Français devant ce genre de choses qui ne représentent ni une vraie opposition, ni une vraie manœuvre, ni une vraie...
Ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que cet exemple-là, c'est tout ce que on a critiqué, tout ce que les Gilets jaunes notamment,
pas que
critiqué. Non, mais c'est une des raisons pour lesquelles les Gilets jaunes sont descendus sur les
rangs. On leur attribue tout.
C'est le fait que...
Les manœuvres
politiciennes de ce type, quand j'entendais cet après-midi un député des Républicains qui applaudissait et abondait et défendait quelqu'un de la France insoumise, mais vraiment... il perd son latin, il perd sa logique et à être dégoûté de la politique. Surtout que ces gens-là, pour certains d'entre eux, M. Carrez était quand même à fond derrière M. Fillon pour l'élection de 2017, lequel Fillon était à fond pour les privatisations.
Mais c'était dans son programme même.
Pardon, c'était même dans son programme, évidemment. Et quand on voit M. Boris Vallot, qui était... un des experts qui a étudié la privatisation des aéroports de Lyon. Non,
alors là-dessus, il vous répond. Ils disent l'aéroport de Paris n'équivaut pas à ces aéroports-là.
Oui,
on ne met pas tous les aéroports dans le même sac.
C'est un argument qui ne tient pas. Donc, c'est incroyable. Alors, deuxième chose, c'est que normalement, un référendum tel qu'aujourd'hui, il est à la mode, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne, là, c'est partagé. Ça vient d'en bas, ça vient des citoyens. Or là, qu'est-ce qui se passe?
Mais c'est l'inverse qui se passe.
Ça vient des hommes politiques et des femmes politiques qui, après, vont aller chacun dans leur circonscription pour dire est-ce que vous pouvez signer la pétition.
Mais alors, populiste ou pas? Parce que...
c'est une hypocrisie totale, cette histoire.
Populiste ou pas, l'initiative?
C'est démagogue, en tout cas.
Écoutez, à cette heure-ci, je vois cette opération là qui se développe et qui a pris forme vraiment sérieusement jeudi soir. C'est à ce moment-là que la députée socialiste a commencé à ramasser les
Valérie
feuilles.
Valérie Rabault. C'est bien joué d'ailleurs parce
elle
que
les
exécutifs
dans son
visiblement n'y avaient vu que du feu.
Et elle les a très bien rangées. Mais depuis jeudi, qu'est-ce qu'on constate? On constate simplement que notre personnel politique qui s'est plaint de l'émergence, souvent à juste titre d'ailleurs, de cette parole publique avec des gilets jaunes, etc., etc., boycottant un processus démocratique représentatif. Et à quoi il ressemble depuis ce matin? Il ressemble à des gardiens de phare automatisés, qui n'ont plus rien à faire et qui disent, pour qu'on sache qu'on existe encore, on va leur couper le courant. Et donc, ils ont trouvé la conjonction d'un dossier économique que les gens n'ont pas le temps d'étudier à fond,
qui est symbolique,
et de leur absence politique. Ils se disent, peut-être qu'en mettant les deux dans le même shaker, en secouant bien, on va faire remonter la chose.
Et c'est d'autant plus...
Elle n'a pas été analysée.
La réaction de l'exécutif est d'autant
plus... Mais ça, c'est la faute de Le Maire.
La réaction de l'exécutif est d'autant plus hypocrite qu'il avait été question, quand on a évoqué les pistes de sortie du grand débat, d'abaisser les seuils de déclenchement de ce fameux référendum. Alors là, on dit, c'est scandaleux. Ils se saisissent du référendum partagées, dont les seuils de déclenchement sont très hauts, alors qu'ils envisageaient eux-mêmes de baisser les seuils.
Vrai.
Donc là, on est en plein délire,
Allez, un dernier sujet dans un instant, une lettre incroyable, Benoît XVI, qui se lâche dans une lettre, on vous en a parlé dans le journal des 18h, c'est assez impressionnant.
On refait le monde dans RTL Soir,
Marc-Olivier Fauchier.
Avec Christian Menanteau, Yves Tréhard, Yves Jégo, Virginie Leguet, il n'avait quasiment plus fait parler de lui depuis sa renonciation en 2013. Benoît XVI publie une lettre pour le moins étonnante, âgé de 93 ans. Il dénonce dans un courrier de 18 pages la faillite morale de la civilisation occidentale et de l'Église. Pour lui, les crimes pédophiles sont dus à l'absence de Dieu dans un contexte marqué par la révolution de 1968 et de la banalisation de la pornographie. Il reconnaît également que dans des séminaires, je le cite, hein, des cliques homosexuels se sont installés. Quelle mouche a piqué Benoît XVI ? Sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Bah écoutez, c'est très partagé. On a d'un côté Jean-Baptiste qui trouve que c'est un texte d'une grande intensité, d'une haute élévation intellectuelle. Les causes sont nommées de façon claire. De l'autre, Olivier qui soupire misère de misère. C'est aussi choquant qu'embarrassant. Dilligam demande alors en quoi est-ce choquant que l'Église reconnaisse qu'elle a mal géré la période des années 60. Se pencher sur son passé, même proche, est une bonne étape pour ne pas répéter ses erreurs. C'est un peu gonflé de prétendre qu'un problème systémique de l'Église, répond Olivier, et la conséquence d'une évolution de la société. Surtout que l'apparition de ce problème date de bien avant la révolution sexuelle. Vous avez lu le texte en entier, demande Lerdet. Il dit que c'est dû à une absence de Dieu dans la vie des auteurs, à une faillite morale de l'Église, à une mauvaise formation des prêtres, à des comportements indignes. Qu'est-ce qui est choquant? En quoi a-t-il tort? Erwan, pour finir, doute et cite la croix. Certains vont jusqu'à mettre en doute la paternité d'un texte dans lequel ils ne reconnaissent pas la plume habituelle de l'ancien pape qui a 92 ans la semaine prochaine, leur apparaît plus que jamais sous la coupe de son entourage.
Et le tweet de Frédéric Martel, l'auteur de Sodoma, un vieil homme de 92 ans qui vit avec son secrétaire particulier tient des propos séniles et homophobes, un homophile homophobe en quelque sorte, rien de bien nouveau.
Donc,
Virginie.
Eh ben c'est le baiser qui tue, quoi, parce que il fait semblant, enfin il fait pas semblant d'ailleurs, il reconnaît que lui-même quand il était en exercice, il savait ce qu'il passait, il reconnaît qu'il a rien fait. Et il dit finalement, ben voilà, j'ai lu cette phrase, apprendre à aimer Dieu et donc la voie pour la rédemption des hommes. Enfin, on est vraiment en pleine hypocrisie, en plein faux semblant, on fait des textes, on dit des choses, c'est exactement comme le pape actuel, il a eu des mots très forts et puis quand après on est venu lui présenter la démission, ben il a dit, oh non, finalement pas de démission, on attend, tout d'un coup la justice civile prenait son sens et le pape disait, mais non, moi j'attends le résultat de l'appel. Moi je suis scandalisée et je trouve ça scandaleux, et c'est un scandale qui s'ajoute à un autre scandale, surtout que effectivement il a 92 ans, sa santé est déclinante et on ne sait pas si c'est pas son secrétaire qui aurait écrit ce texte comme un peu une vengeance, on sait pas très bien d'où, mais c'est sordide.
Oui, moi je trouve que c'est quand même moins caricatural que ce que certains veulent bien dire. Qu'est-ce qu'il dit? Non, mais il dit deux choses. Il dit c'est pas pour ça qu'elles sont vraies.
En plus c'est méprisant, mais il dit homosexuel.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il dit une chose, c'est d'abord qu'il y a eu un délitement moral à l'intérieur de l'Église et qui date de la libération sexuelle. Il dénonce cette libération sexuelle des années 60-70. Ça, que le pape, qu'un ancien pape fasse ça, ça me paraît pas très étonnant. En revanche,
que l'a-t-il fait quand il était pape ?
En revanche, ce qui est plus gênant, c'est que le désordre, je dirais, des mœurs dans l'Église aujourd'hui ne date pas de cette période-là. Simplement, aujourd'hui, avec la force médiatique, on le sait, c'est révélé. Mais vous pensez bien que le comportement de certains religieux, c'est ancestral, que ça se passait aussi comme ça.
Oui, mais on ne faisait rien.
Yves Tréard, la deuxième chose.
L'antériorité d'un vice n'en fait pas une vertu quand même.
J'entends bien.
C'est pas parce que ça se passait comme ça depuis des lustres qu'il faut.
Je suis en train de vous dire que la révolution de 68 n'y est pour rien.
Ah, on est bien d'accord.
C'est ce que
l'explication de Benoît XVI, je n'avais pas compris.
Je viens de dire. Et je vais me répéter qu'il peut condamner en qualité de pape la révolution de 68, ce qui ne me paraît pas tout à fait étonnant compte tenu de sa culture personnelle. En revanche, je viens de dire précisément ça, ce qui s'est passé dans l'Église depuis cette période-là, ça se passait aussi avant, sauf que c'était pas su, moins révélé, pas médiatisé.
C'était su à l'intérieur de l'institution.
Mais oui, vous m'avez compris.
Moi, il y a une chose. Vous énervez pas.
Ça veut dire que c'était su à l'intérieur de l'institution.
Pourquoi ça,
Yves Tréard,
La deuxième qui est choquante, c'est qu'il ne parle jamais des victimes.
C'est ce que j'allais dire. Il y a une fois le mot victime en 16 pages.
Vous avez je schématise, mais vous avez un prêtre qui a un petit garçon à côté de lui qui lui fait des choses, des misères. Il dit c'est pas bien de le faire, mais il dit pas que c'est un trouble et des conséquences
terribles.
Un crime pour le petit garçon, la petite fille qui est à côté.
Yves Jégo, je vous donne la parole après la pub, à tout de suite.
On refait le monde dans RTL Soir
avec Marc-Olivier Fogiel.
Allez, à 19h52, à vous Yves Jégo, donc cette lettre du pape. Hein.
Moi j'avais cru en 2013 dans le retrait de ce pape, ce qui est quelque chose d'inédit puisqu'on n'a jamais eu de retrait de pape et de pape vivant en même temps, qu'il rentrait dans le silence pour terminer sa vie tranquillement. Moi je suis d'abord très surpris qu'il y ait une sortie médiatique aussi violente contre celui qui l'a succédé, c'est une remise en cause quand même de beaucoup de choses qui a été dit par le pape François en filigrane de ce courrier, qu'il n'ait pas cité les victimes. Effectivement, une fois le mot victime en 16 pages, c'est quand même totalement, totalement incompréhensible. Et puis au fond, ça ouvre quand même le débat, et l'Église devra bien, en tout cas si l'Église veut survivre au XXIe siècle, poser ces questions du mariage des prêtres, du rapport à la sexualité des hommes d'Église. Enfin, il va bien falloir un moment, au-delà des drames, au-delà des tensions, au-delà des mises en cause, que tout ça perce. Et il ne va pas au bout, au fond. Parce qu'il cherche une explication dans l'évolution des mœurs et dans la révolution de mai 68. Je ne sais pas comment, d'ailleurs, vu d'Allemagne à l'époque, il avait pu vivre la révolution de mai 68. Je ne sais pas comment elle a pu influer toute l'Église mondiale à ce point-là. Moi, je trouve qu'il y a derrière... C'est très surprenant. Pas surprenant de l'homme, parce que c'est toujours celui qui a gardé le dogme, qui a une vision d'une Église immuable qui doit se régénérer et qui ne doit pas changer. C'est ce qu'on lit aussi dans ce courrier. Mais je trouve que là, il y a un élément de conflit entre deux papes vivants qui est extrêmement intéressant à analyser et qui peut peut-être déstabiliser l'Église beaucoup plus qu'on ne le pense, parce qu'il y a deux camps qui sont en train de trouver deux leaders.
Ça semble assez... sans être un spécialiste des coulisses du Vatican, mais on voit bien d'abord que le premier point à noter depuis plusieurs mois maintenant, c'est que le pape François n'a franchement pas que des amis au Vatican. Et ça, c'est très clair. Il y a des clans qui...
Normal, c'est un jésuite.
Oui, peut-être.
Ah oui. Enfin, bon, alors, ça explique beaucoup de choses. Voilà.
Oui, on dirait la même chose peut-être si c'était un dominicain ou un franciscain, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il n'a pas que des amis, que ceux-ci, devant la popularité initiale du pape François, se sont tranquillement mis à l'écart de toute polémique, de toute sortie publique, etc. On ne les a pas beaucoup entendus, alors qu'il y a toujours un débat vivant au sein même de l'Église, et en particulier au Vatican. Et donc là, il semblerait que... La dernière réunion qui a eu lieu à Rome, justement, après les diverses révélations sur les problèmes sexuels...
À Lyon.
Non, à Rome, il y en a eu
mais...
à Rome, bien sûr. Un grand où tous les évêques du monde étaient rassemblés. Donc, il semble bien que maintenant, cet épisode étant passé, l'opposition ressorte. La deuxième chose qu'on peut quand même noter dans ce texte, c'est quand même un texte assez crépusculaire, quoi, de cet ancien pape de Benoît XVI. Parce que les mots, c'est faillite morale, décadence de l'Église, enfin, il n'y a rien qui donne du souffle à tous les catholiques du monde qui pouvaient espérer d'un ancien pape, peut-être quelque chose de plus fort. Et le troisième point, c'est que je pense que c'est un clou, non pas dans le cercueil du pape François, mais c'est un clou dans sa chaussure, et que ça ne va pas lui faciliter la vie dans les mois et les années.
Ça va peut-être l'obliger à prendre des décisions et à prendre enfin
non, parce que
l'opposition
est très
aux actes.
Et il a raté, me semble-t-il,
oui,
son
mais
momentum.
Attendez, il y a quand même...
Quand le cardinal Barbarin est venu lui présenter sa démission.
Vous oubliez l'opinion des catholiques qui a beaucoup changé ces dernières années et qui demande aujourd'hui des comptes justement à l'Église pour qu'elle change. Alors ce qui est c'est très intéressant, parce qu'il faudrait venir dans le concret. Pourquoi il y a une distinction entre le pape François à opérer et Benoît XVI ? Parce que Benoît XVI dit il ne faut pas réformer l'Église dans sa structure, j'allais dire, ancestrale, d'éternité, et que là où le pape François dit il faut changer... c'est un aspect et une approche très matérialiste, il faut carrément changer l'organisation de l'Église. Et c'est là où ça peut l'embarrasser, parce que, évidemment, vous avez énormément de prélats, vous avez énormément de religieux qui sont campés comme dans le monde militaire.
Avec cette lettre, un appui très fort.
Pour que rien ne change. Et
c'est pour ça
compliqué.
Que je dis qu'il y a un clan qui était dans l'ombre et qui maintenant a une lettre d'un ancien.
Il y a quand même l'opinion publique et l'opinion publique catholique qui a beaucoup changé, beaucoup évolué, et qui veut excédé par les problèmes.
Un peu comme les politiques. Les
révélations. Non, pas les révélations. Je peux dire ça, déjà, quand même.
Et ne parlons pas du viol des religieuses
Oui, mais tout ça, ça
en Afrique.
Allez, merci à tous les quatre d'avoir refait le monde sur RTL. Dans un instant, le flash de 20h. Et ensuite, ce sera Jacques Pradel pour l'heure du crime. Bonsoir, Jacques.
Bonsoir, Marc-Olivier.
Au sommaire.
Eh bien, à la une, ce soir, le point sur la guerre des parrains corses menée désormais par les fils d'eux, les enfants, les héritiers, toute une nouvelle génération qui veut gagner des parts de marché à coup de calibre. Et on vous raconte tout ça avec un spécialiste de la question tout à l'heure, le journaliste du Monde, Jacques Folleroux.
À tout de suite.